dans l'identité d'Israël qui a cette capacité de transformation de contraire. Et ça fait partie d'un sujet beaucoup plus vaste, qui est effectivement que nous pouvons toucher dans différents sujets. Dans l'identité d'Israël, il y a une force qui s'appelle le yitzhour, c'est-à-dire la force de transformer les contraires en contraires. On prend une malédiction, elle devient bénédiction. On prend un futur, il devient un passé, il devient un futur. Ça se voit dans énormément. Il y a beaucoup de versets, je ne vous ai pas en tête, mais vous les trouvez. Va et fort, et ta clala libracha. Cette force-là se trouve en Israël. Que simplement mettre en évidence ce que nous vivons actuellement, on prend le passé le plus antérieur et on en fait un futur le plus à venir. C'est un koar qui définit le koar d'Israël, qu'on appelle la force du renouvellement. Et cela, je vais revenir maintenant très rapidement au problème de Moïse. Moïse seul est capable de cette conduite de mitzvah qui fait que toutes les mitzvot sont possibles. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas eu cette clé, tant qu'on n'a pas eu ce levier, on ne peut pas embrayer dans la Torah. Pourquoi ? La Torah est donnée à un peuple dans l'état de pureté. Il faut d'abord le purifier pour qu'il puisse accéder à la Torah. Formellement, ça veut dire qu'il y a une mitzvah à travers laquelle on devient soumis aux mitzvot. Et c'est laquelle? Alors, du point de vue historique, je pense que c'est évidemment clair, il faut passer de l'état d'impureté à l'état de pureté. Le corollaire, c'est que celui qui passe, qui fait passer les autres de l'état d'impureté à l'état de pureté, lui-même sera impur et donc entre dans la communauté et est soumis à la même règle d'avoir à se purifier, etc. Mais, a priori, il s'agit de Moïse en particulier. Encore une fois, tant pour la sortie d'Égypte qu'au niveau de l'événement historique, la sortie d'Égypte n'aurait pas été possible si ce n'était pas Moïse, c'était l'intermédiaire. Et pour pas qu'on croit que c'est Moïse qui l'a fait, on ne le cite même pas dans la Bible après ça. Mais tout le monde sait très bien que si ce n'était pas Moïse, jamais rien n'aurait bougé. Mais il a fallu qu'il y ait cette chose exceptionnelle que, de Joseph à Moïse, finalement on trouve un hébreu sur le trône du Pharaon. Vous rappelez que Moïse est d'abord connu comme le fils et le fils du Pharaon, son héritier présomptif. Et je vous dis souvent, c'est l'identité inverse de Joseph. Joseph, c'est l'hébreu déguisé en égyptien, et Moïse, c'est cet hébreu déguisé en égyptien qui enlève le déguisé en égyptien. Et donc, tout cela a des prolongements dans le passé, je veux dire, ça vient de loin. C'est-à-dire d'une partie d'Israël, une partie de l'identité d'Israël, pardon, d'une personne, qui finalement se met à part en vue du salut du clan, en vue du salut de la collectivité, et qui a donc un destin exceptionnel. Je parle de Moïse en particulier. C'est bien clair, c'est ça? Et voilà ce que je voulais ajouter. C'est que tout se passe comme si nous sommes dans une situation analogue, parce que nous vivons de nouveau cette situation de sortie de la Galilée et le commencement de Géoula. À Krata de Géoula. Et donc, deux indications, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver, comme je disais, cette clé, cette charnière, ce levier qui fait que ça puisse se déclencher. Et donc, ça vient d'en haut, ça ne peut pas venir d'en bas. Et en bas, ce qui était impur pour se transformer en pur, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un passeur, quelqu'un qui fasse passer de l'un de sa côté. Donc, il y a quelque chose qui se dirige en haut pour se transformer. C'est quoi
l'histoire? En fait, un rapport direct entre, d'une part, un commentaire de Rahim, et d'autre part, le commentaire de Rashi. Comme si la question se posait des homos, la réponse se trouvait dans un commentaire de Rahim.
Ah non, c'est deux choses différentes, je vous l'ai cité à des moments différents de l'analyse. C'est toi qui fais le
lien. Il y a quand même un rapport là.
Il y a un rapport.
Tu n'es pas clair pour moi.
D'accord, mais je n'ai pas voulu indiquer ce rapport-là. Mais je vais dire très brièvement. Ça veut dire que, d'une part, nous avons l'enseignement de Horachaïm, que l'aspect chouka de la Torah, c'est Asher Tiva Asher Nemor d'Aver et Bené Israël. C'est l'enseignement de Horachaïm. Et tout à l'heure, le Midrash Rashi dit que le fait que Hachem nous ait donné ce commandement en particulier de la paradigma, c'est une chouka, ça veut dire qu'on va être en but aux contestations des Ouazaolam. Et j'essaie d'expliquer pour ma part l'importance de ce Midrash. Ça porte sur l'idée même, le projet même de la pratique de la Torah qui est contestée. Vous ne pouvez pas pratiquer la Torah. Il nous dit que vous pouvez grâce à la paradigma. Alors on répond, eh bien, on le peut grâce à la paradigma, derrière il y a tout le thème de l'identité de Moïse, et c'est Xéra de Dieu. Alors, je crois que c'est un thème extrêmement important, mais qui est un peu difficile à manier. Parce que ça implique, en tout cas dans le langage de notre culture contemporaine, une catégorie qui est très très délicate à exprimer, et qui s'appelle l'élection d'Israël comme fait explicable. Et je dirais une seule chose là-dessus. On ne peut pas ne pas remarquer que finalement, l'humanité entière, à travers l'islam, pour sa part, à travers la chrétienté pour la sienne, et dans d'autres formules culturelles, humanistes et pas forcément théologiques, je connais qu'il y a un cas à part dans l'histoire de l'humanité, et que c'est le peuple juif, c'est-à-dire Israël. On ne dira pas élection, mais on désigne la même chose. Donc, seulement, ils disent que ça a eu lieu, et ensuite Israël a été déçu. Je veux dire qu'ils en sortent. Mais ils ne peuvent pas ne pas nier cela, qu'il y a cette rocatatorade avec le béni Israël. C'est clair. Quand vous étudiez le Kuzari, par exemple, le Kuzari a très bien mis en forme cela dans son introduction, en disant qu'en fin de compte, si on demande aux représentants de l'islam, aux représentants de la chrétienté, d'où ils savent que ce en quoi ils croient, eux, est vrai, ils finissent par dire à leur demander les juges. À un certain moment, ils se sont adressés à l'Israël. C'est-à-dire qu'il y a une corrette quelque part, et personne ne peut le nier. Tout ce qu'on peut faire, c'est de dire Ancien Testament, ou à la manière du Coran, malédiction de la déchéance, Israël. C'était, oui, ça, mais c'est écrit. Et cette espèce d'incapacité d'admettre que la véritable volonté de Dieu, c'est que la Torah d'en haut soit pratiquée en bas. Pour eux, la Torah d'en haut ne peut être pratiquée qu'en haut, en bas, on va s'arranger autrement, mais pas la Torah. Mais c'est le problème. Et en disant, et apparemment, Aristote s'est réveillé la vie en disant, c'est pas possible, vous nous parlez de choses contradictoires. Et comment on peut transformer un pur en pur, et en plus avec ce mystère, et que pour faire ça, le pur devient pur. Bon, voilà donc quel est le lien qui peut se faire. Alors, j'ai posé le principe suivant. C'est qu'il y a une mitzvah, en particulier de la Torah, grâce à laquelle on peut embrayer dans toutes les mitzvahs de la Torah. Puisque toutes les mitzvahs de la Torah ont pour objectif la Kedusha, la sainteté. Dans le temps de Galut, quand le Beth Amikdash n'est pas encore construit, on peut penser qu'il y a une différence de nature entre les mitzvahs qui demandent la pureté pour la sainteté du temple et les mitzvahs qui ne demandent pas la pureté pour la sainteté du temple. Mais ça, c'est une situation de Galut, une situation provisoire. Tout se passe comme si, tant que le temple n'est pas construit, nous sommes tous en état d'impureté, d'ailleurs c'est pas tout ça comme si, nous sommes tous en état d'impureté, bien qu'il y ait des prescriptions de purification, mais dans les relations interhumaines, mais par rapport à la sainteté du Beth Amikdash, nous sommes tous en état d'impureté, il faut que ça s'embraye quelque part pour pouvoir commencer à purifier les premiers qui purifieront les autres. Ça veut dire, dans tous les cas, de quelque manière qu'on prend le problème, il nous faut un Moïse qui soit ce cas particulier qu'a été Moïse, étant la sortie. Je pense que c'est ça. Je vais raconter une petite anecdote pour vous montrer que les choses ne sont pas simplement abstraites, mais elles sont vécues dans des niveaux existentiels très différents. Il y a très 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 longtemps, j'avais un élève qui était dans une école que j'ai dirigée, et qui avait pour objectif de former des cadres pour les communautés. Et alors, cet élève, qui est devenu d'ailleurs depuis un très grand ami Kraham, à la fin du stage, m'a dit, bon, maintenant j'ai compris, la Torah c'est la Torah, alors je m'en vais dans une yeshiva, je quitte cette école, pourquoi? Il dit, ben, j'ai peur, parce que j'ai fait le passage qu'il faut faire, je ne sais pas comment. J'ai fait le passage qu'il faut faire, et je ne veux pas avoir à refaire ce passage en voyant les autres le refaire. C'est trop dangereux. Il y avait un peu d'orgueil là derrière. Pour moi, ça réussit, c'est pas si ça réussit pour les autres. Alors, il m'a donné une comparaison. Et il m'a dit, quand quelqu'un se fait opérer à l'hôpital, ensuite, il ne veut plus rentrer dans la salle d'opération, ça sent l'éther. Il a peur de l'odeur de l'éther. Même j'ai peur de l'odeur de l'éther. J'ai envie d'aller m'éterrer, mais quand même. Alors, il a répondu, mais l'objectif, c'était pas de faire un hôpital, c'était de faire une faculté de médecine. Alors, vous voyez la différence. C'est clair, comme problème. Et alors, il m'a cité ça, il m'a dit tu comprends, tu te rappelles, la bâcherie, ce qui rend purs les impurs, ça les rend purs, ça les rend impurs. Mais je parle de ça. Comprenez bien ce problème. Alors donc, il faut arriver à avoir le mérite d'une génération qui est capable de faire le travail de Moïse. C'est bien compris? Là, il y a un mystère. Que on ne peut pas expliquer au Goïm ni même au Satan. Dieu seul le connaît, c'est une complicité avec Israël, c'est un secret avec Israël. C'est que dans
dans à sa génération, dans le peuple d'Israël, il y a cela, cette capacité de pureté qui n'est pas atteinte par aucune impureté. Et on ne peut pas expliquer ça au monde, il dirait, mais pourquoi ce cas particulier de l'élection d'Israël, la grâce d'Israël, ça rend les gens fusés, cette histoire de la sainte, ils ne peuvent pas y participer. Vous avez compris pour vous ? Voilà ce qui se passe dans ce midrash que cite. Dans ce midrash que cite. Alors je reprends maintenant, on arrive à la deuxième partie de l'étude.
Ça n'a rien à voir avec la pureté de l'huile de Hanouka. L'étude des massacres,
c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que l'huile était rendue impure par le fait que les Grecs avaient débouché le vase où ils avaient l'huile, et comme ils étaient impurs par contact et cadavre par définition d'ailleurs, l'huile était rendue impure. C'est-à-dire que toutes les Grecs, finalement, ont un préalable de pureté, de telle sorte d'aborder le stade de la sainteté. Je ne sais pas comment vous dire. Tout ce qui est profane peut devenir saint, sainteté. Mais à condition de quitter le stade d'impureté où il se trouve et d'acquérir d'abord un stade de pureté. C'est bien ça. Alors, lorsqu'on est tombé dans l'impureté, bien qu'on soit par principe, par vocation, candidat à la sainteté, on est indisponible à la sainteté à cause de cette impureté. Elle empêche. Il n'y a pas plus grande impureté que la galie. Je pense que c'est presque tout le monde. Donc, la sortie d'Égypte était impossible, si tu faisais par Moïse, qu'elle était faite. Le fait que la Torah soit donnée à des hommes, c'était impossible, ce n'était pas par Moïse que ça s'est passé. On connaît bien ces deux thèmes. Attendez, je vais vous amener avant d'oublier. C'est que là, nous avons le cas particulier pour l'ensemble du livre de la Torah, d'une mitzvah en particulier qui permet la pratique de toutes les autres. C'est la mitzvah concernant la purification. Bon. Et je voudrais manquer de nouveau tout de suite en disant ça, c'est l'initiative de Moïse qui a fait que c'était possible. Donc il y a un secret de l'identité de Moïse, et ça ne peut pas expliquer au Goïm. Parce que objectivement, cette histoire apparaît comme si Dieu est complaisant pour Israël. Pour le monde entier, ça ne peut pas fonctionner, mais pour Israël, il lui donne un truc. Alors Israël répond, et bien c'est Dieu qui a décidé, on ne peut rien. Vous comprenez, je reprends cette notion, voilà ce qu'a dit Rachid, hein, cette notion de l'élection d'Israël. La deuxième chose que je voulais ajouter, le piège, c'est de croire que c'est une élection de privilège, une élection de droit, alors que c'est une élection de devoir, d'abord. C'est bien clair. J'ai une petite parenthèse qui me semble très importante. L'année dernière, il y a eu un grand colloque à Paris sur les droits de l'homme. Je devais y participer, mais j'en étais empêché. Et le thème que je voulais expliquer, c'est le suivant. Je recherchais dans toutes les sources de la tradition juive, cette expression, les droits de l'homme n'existent pas. Il y a les devoirs de l'homme. Et réfléchissez bien au thème, il suffit de le dire comme ça pour comprendre ce que c'est. C'est-à-dire, j'ai beau faire semblant d'accorder des droits à quelqu'un d'autre, si moi, je n'ai pas sur moi le devoir de garantir ces droits, ça va. Ça ne sert à rien. Ça veut dire que, vous avez compris le problème. Ça ne veut pas dire que l'expression les droits de l'homme ne doit pas être utilisée aujourd'hui, qu'elle est rentrée dans le langage culturel commun, elle a un impact, un objet très important. Il faut restaurer la dignité des droits de l'homme. Mais pour la Torah, c'est l'inverse. Un homme n'a pas de droit. Et chacun a des devoirs vis-à-vis d'autrui. C'est ça qui fonde le droit de chacun. Vous avez compris le choix. Pourquoi je vous parle de ça? Et bien entendu, d'autre part, il faut ajouter, ça nous tenons surtout l'enseignement de Judas-Louis, que Israël, c'est Israël de l'humanité entière. Comme par exemple l'expression qui va arriver pour la sortie des Béni Bechori d'Israël, mon fils premier-né d'Israël, et c'est là, dit le Midrash, qu'on apprend que c'est bien Jacob qui est l'aîné, pas Israël. C'est là que c'est confirmé. Eh bien, ça veut dire que les autres aussi, c'est des fils. C'est clair. Et alors, tout le monde oublie ça. Le fait qu'il y ait un premier-né, ça ne disqualifie pas les autres, au contraire. Il est le premier-né des autres. Bien, normalement, c'est vrai.
Je
Sera? La question qui a été posée par rapport au christianisme, c'est effectivement comment ça se traduit dans leur théologie. C'est le fait que l'homme ne peut pas pratiquer la Torah, qu'un être exceptionnel a pris sur lui de la pratiquer et par là expie les fautes de tout le monde. Mais c'est très différent. Ça veut dire la parole humaine nous rend disponible pour pratiquer la Torah et chacun a sa responsabilité. C'est très différent. Bien. Et donc, alors rapidement, parce qu'il nous reste juste le temps de...
C'est
Je vais expliquer rapidement. C'est-à-dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit peut-être brièvement, c'est que le principe de toute impureté qu'elle soit, c'est le cadavre, c'est la mort. Là, nous aurons une paracha pour parler de ça, quand on arrivera dans les tibos de Vaïkra. Et vraiment, je vous dis à l'avance le principe. Seul celui qui est capable de sainteté risque d'impureté. Et plus on est capable de sainteté, plus on risque une impureté grave. Vous comprenez cela ou c'est à la fin de discuter, vous savez. Ça veut dire que vous verrez cette espèce d'étonnement, de paradoxe, dès qu'on arrivera dans le livre de Vaïkra, qui est le livre qu'on appelle le Lévitique, ça veut dire les livres concernant la tribu de Lévi et les Kohanim, ceux qui sont voués à la sainteté, alors les précisions méticuleuses concernant les risques d'impureté s'accumulent. Dans la culture générale extérieure, c'est le principe complètement inverse. C'est-à-dire, en français on dit tout est pur pour les purs, mais il faudrait dire juste l'inverse. Pour les purs, tout risque d'être impur. Vous avez compris la différence. C'est-à-dire que celui qui est voué à la sainteté dans le principe de la culture générale, ne connaît pas l'impureté, tout est pur. Il n'y a plus de différence entre le pur et l'impur. Il est Saint-Paul, enfin ce qu'il appelle Saint-Paul, vous voyez ce que c'est. Mais il va jusqu'à dire que vous savez, il n'y a plus de différence entre juifs et grecs, ni entre hommes et femmes. Et une fois j'ai répondu à un curé, tant qu'il y a une différence entre un homme et une femme, grâce à Dieu, il y aura aussi une différence entre un juif et un grec. Il n'a pas encore compris ce qu'il était grec. On est encore à pourri, bon, c'est pas grave. Alors, la question est la suivante. Du point de vue de la connaissance, je reprends la même chose que j'ai cité tout à l'heure à propos du niveau de la culture. On parle, vous l'avez peut-être étudié par vous-même, d'autre part, on parle des 50 portes de l'intelligence, des 50 portes de la sagesse, Nun Sahare Bina. Et corollairement à cela, il y a Nun Sahare Touma, Nun Sahare Tahara, les 50 portes de la pureté, les 50 portes de la pureté. Et alors, on passe d'une porte de la connaissance à une porte supérieure de la connaissance en sortant d'une porte de l'impureté pour entrer dans une porte de la pureté. Mais s'il n'y a pas celui qui nous fait passer d'une porte de la connaissance de l'impureté à celle de la connaissance de la pureté, on ne peut pas en sortir et on ne peut pas accéder à la connaissance de l'impureté. Ça revient un peu à ta question. Bon, alors je vais vous dire quel est l'exemple que j'ai choisi dans un livre en parallèle à ce principe qu'on vient d'étudier, le paradigme. C'est qu'effectivement, il y a une mitzvah dans la Torah, qui, grâce à laquelle, on devient soumis à toutes les mitzvot. Vous savez laquelle, et vous avez dit, c'est laquelle. Non. Excusez-moi, c'est une mitzvah parmi les autres, très importante, c'est un signe de l'alliance. Mais un juif, même un circoncis, c'est un juif, un circoncis, c'est un juif. Par exemple, vous avez les hémophiles, où la halakha prévoit que dans le cas d'hémophilie grave, on ne fait pas la circoncision, mais il est juif quand même. Bon, il ne peut pas être président du consistoire, c'est vrai, mais c'est pas une blague, mais rabbin, il ne peut pas être parnasse. Il y a des mitzvot sociales qu'on ne peut pas. C'est une mitzvah à travers laquelle on est soumis à toutes les mitzvot. Vous savez, là, non, il y a une mitzvah qui nous rend soumis à tous les mitzvot. C'est quoi? Non. Le judaïsme, ça ne s'invente pas. C'est le kriyatma. Qu'est-ce que ça fait? Comment s'appelle la mitzvah du kriyatma? Kabbalah, ol malchut shamayim et ol nivu. Ça veut dire quelle est la signification du comportement de la mitzvah de la lecture du Shema? C'est un rite par lequel je prends sur moi la souveraineté de Dieu et de ses commandements. Kabbalah, ol malchut shamayim et ol nivu. Yes? Vous avez la source. Cette définition du kriyatma nous est donnée dans la première Mishnah du deuxième chapitre de la Masechet Brachot, c'est l'enseignement de Rabbi Yehoshua ben Korcha. Et vous, ceux qui peuvent, vous avez la référence et vous la prendrez par cœur. Okay. Là, il y a que Kéatma et Kabbalah. Oh, le mot que j'ai parlé de c'est pourquoi là, nous allons étudier très rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, on va essayer de s'arrêter à 8h, donc il nous reste 20 minutes. Je vous rappelle avant d'oublier qu'à 8h30, nous aurons une conférence d'Abraham Yehudit sur le dernier livre qui vient de paraître. Entre-temps, on pourra faire la redoute pour ceux qui resteraient là pour le deuxième livre. Alors, je vais revenir. C'est la première étude du Talmud, c'est précisément une étude concernant le Kriyat Shema. Vous allez retenir un des éléments de notre étude à propos du Kohen. C'est que le Kohen reste impur jusqu'au soir. Bon. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails du texte talmudique. Si j'avais 2 heures devant moi, j'aurais ouvert le livre, mais enfin, je vais vous citer l'essentiel. C'est tout dommage d'ailleurs, ça vaut la peine de suivre ça. Bon, une autre fois. La question que pose la Mishnah, la première question de toute la lutte concerne la mitzvah du Kriyat Shema du soir, parce que c'est la première mitzvah qu'un bar mitzvah va faire. On est bar mitzvah le jour de la bar mitzvah, ça commence le soir, et la première mitzvah c'est le Kriyat Shema. Et par définition, le Kriyat Shema c'est la mitzvah par laquelle on est soumis à toutes les mitzvahs. Le thème de cette étude, je vais vous formuler tout de suite. Est-ce qu'on peut être obligé de la mitzvah qui nous oblige des mitzvahs? Il y a un service ici. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez l'idée? Oui. Est-ce qu'on peut considérer la mitzvah de Kriyat Shema comme une des autres mitzvahs? C'est-à-dire, et dans la Gemara, on cherche la source de cette mitzvah en tant que mitzvah. Bon, nous n'avons pas le temps d'étudier cela en détail, je vous signale la définition du problème. Je vais quand même vous le lire, parce que je vais dire 2 mots dans Rashi, et on n'a pas le droit de lire par cœur. Et voilà comment se formule la question de la Mishnah. Mais Matai, Korin, et Shema, Baharavi. À partir de quand on lit le Shema les soirs? Je mets au singulier, c'est un autre problème pluriel, le soir. C'est-à-dire, toutes les mitzvahs de la Torah vont commencer par cette mitzvah qui consiste à dire Kriyat Shema du soir, le soir de la bar mitzvah. Et chaque jour, ça recommence par le Kriyat Shema de la bar mitzvah du soir. Chaque jour est un jour nouveau. C'est l'inclair. Et rappelez-vous, dans le premier Mishnah du chapitre de Masechet Brachot, que cette mitzvah du Kriyat Shema est définie comme étant Kabbalah, Trois, Marcus, Shamaïm, Béol, Mitzvah. Je reprends l'analyse de la difficulté. C'est par le fait que j'ai dit Kriyat Shema que je suis soumis à l'obligation des mitzvahs. Mais qu'est-ce qui me soumet à l'obligation de cette mitzvah qui, elle, me soumet à l'obligation des mitzvahs? Donc, toutes les mitzvahs, je dois les considérer comme étant obligation, mais la motivation de la mitzvah de Kriyat Shema ne peut pas être obligation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me mène à accepter Kriyat Shema? Quand j'ai accepté Kriyat Shema, j'accepte toute la Torah. Mais une fois que j'ai accepté Kriyat Shema, alors j'accepte l'obligation de toute la Torah. Mais qu'est-ce qui me mène à accepter Kriyat Shema? Ça ne peut pas être une obligation. Il y aurait un servitude. Vous avez compris le thème? Bon. Alors tout de suite, la Gemara va se lever l'autre chose. Elle va retenir le mot le soir. Et je vais expliquer le sens de la question de la Mishnah, c'est ceci. À partir de quand c'est le soir pour dire le Kriyat Shema du soir? Parce que suivant les mitzvahs, on peut commencer le soir à des moments différents. Par exemple, pour Shabbat, on commence au coucher du soleil. Et pour cette mitzvah en particulier du Kriyat Shema, on va finalement apprendre que la mitzvah prend force de loi que à partir de la sortie des étoiles. Le temps qu'il y a entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, c'est le temps du crépuscule, c'est le temps de passage entre le jour et la nuit, et donc ça pose problème. Quand est-ce que c'est passage? Au commencement du passage ou à la fin du passage? Pour la sainteté du Shabbat, le passage c'est au commencement du passage. Dès que le soleil se couche, c'est Shabbat. Donc le crépuscule du soir fait partie de la nuit, c'est-à-dire du jour suivant. Tandis que pour la mise à l'extérieur, le passage n'est que quand le passage est fini. Alors donc le crépuscule fait partie du jour précédent. J'ai compris pourquoi la Gemara veut savoir, la Mishnah veut savoir quand c'est le soir pour que c'est le paradis. Ça, c'est le chemin. Bon, là, j'ai pas assez de temps pour expliquer ça, mais un jour peut-être on y reviendra. C'est pourquoi vous voyez quand vous allez aux côtés, les Nimanim des Sfaradim finissent très tôt, alors que les Nimanim des Ashkenazim attendent la sortie des étoiles pour commencer le chemin. D'accord. Ah, Matai, c'est Mahavar. Vous êtes à l'ouïe et vous nous voyez. Alors, voilà la réponse qu'a donnée la Mishnah. À partir de quand on dit le Shema du soir, ça veut dire à partir de quand c'est le soir pour le Shema. C'est à partir du moment où le Kohen qui s'était rendu impur devient de nouveau disponible, pur dans sa pureté, bon pour le service de la Kedusha. Vous voyez comment la Gemara va établir un lien direct entre ces deux données. Parce que formellement, c'est le même problème, c'est la mitzvah qui remplace toutes les mitzvot, c'est le fait qu'un Kohen qui était pur s'était rendu impur, et donc il reste impur jusqu'au soir, ce n'est que là que lui peut devenir de nouveau bon pour service, comme on dit, à l'armée. Et de même manière, l'engagement du juif qui accepte la Torah, ça commence par la mitzvah du Kriyat Shema. Ça veut dire, celui qui dit le Kriyat Shema est dans la situation du Kohen qui fait son culte, et son culte commence par le fait qu'il est, il est possible de manger la Trouma. La Trouma, c'est le prélèvement des récoltes qui est envoyé au temple, qui est considéré comme une nourriture consacrée, une nourriture sainte que seul le Kohen a le droit de manger. C'est la partie de la récolte qui a été prélevée avant la commercialisation de la récolte. Donc c'est un aliment pour lequel il n'y a eu aucune faute. C'est pourquoi c'est une nourriture consacrée et que seul le prêtre, qui est l'homme sans faute, l'homme de sainteté, a le droit de manger pour déculpabiliser l'ensemble du peuple. Bon, ça j'ai dit très rapidement, mais vous voulez dire que le thème est juste pour lui-même. Donc ça veut dire, à partir de quand j'ai dit l'initiation du soir? Eh bien, la réponse est, à partir du moment où le Kohen, qui était indisponible pour son service, redevient disponible pour son service. Vous avez compris le problème? Bon. Et alors, la Gemara va poser une question apparemment naïve, mais dans la Gemara, les questions naïves, il faut les chercher. Il dit ceci. Si la Mishnah avait voulu nous dire quelle est l'heure à laquelle il faut lire le Kriyat Shema, c'est ça son problème, elle nous aurait dit tout de suite, à la sortie des étoiles, et à la rigueur, elle aurait ajouté comme dans le cas du Kohen, pour qu'on comprenne le lien. Mais elle ne nous a pas dit ça. Elle nous a dit à l'heure où le Kohen rentre pour manger sa trouma. Je reprends le raisonnement. La Gemara dit, la Mishnah aurait pu nous dire, je paraphrase un peu, mais c'est l'essentiel, la Mishnah aurait dû nous dire, à partir de quand on dit le Kriyat Shema du soir, à l'heure de la sortie des étoiles, comme dans le cas du Kohen, et j'aurais appris la même chose. Alors la Gemara dévoile quelque chose de tout à fait autre. Parce qu'on se réfère à notre verset que nous avons lu là, reprenez, la paracha de Mishkat, Berachas Besaro Bamaim, Betame Adaharet. Verset 7. Décidez de Radava Kohen, de Rachas de Sarobamaï, de Racha Yavo de Mahane, de Kamea Kohen Adare. Ça veut dire, regardez bien l'homme. À partir du moment où arrive le soir, le Kohen qui s'était rendu impur, c'est donc un cas autre mais très analogue, dans le Kohen de notre Mishnah du Kriyat Shema, c'est n'importe quel Kohen, n'importe quel camp, qui s'est rendu impur de n'importe quelle raison. Et alors, il est indisponible pour son service de Kedusha jusqu'au soir, après avoir pris la Mila, c'est-à-dire le même de purification. Et ici, c'est le point de départ de tout ce problème. Le Kohen qui a rendu possible à tout Israël le commencement des mitzvot. Vous voyez pourquoi c'est très important que le Talmud a choisi comme modèle de qui pratique la mitzvah le Kohen. C'est-à-dire le modèle reste le Kohen. Vous retrouvez un thème très important de la Torah, qu'à la sortie de l'Égypte, Israël était destiné à être un peuple de Kohanim. Est arrivé ce qui est arrivé, il y a quelques Kohanim qui sont Kohanim jusqu'au temps messianique, mais entre-temps le modèle reste le modèle. Le juif doit pratiquer la Torah à la manière d'un Kohanim dans sa avoda, à la manière des Kohanim dans sa avoda. Il y a d'autres choses possibles. Il y a d'autres conceptions du judaïsme possible. C'est pas le moment, parce qu'on n'a pas le moment de les énumérer, mais je le dis très brièvement. La Gemara cite d'autres opinions, sept opinions autres, qui se groupent finalement dans trois catégories de nourriture. Le Kohen qui mange la terouma, la nourriture consacrée, les kodashim, ou bien le porc qui mange le pain de la charité, ou bien le Baal HaBayis qui mange le pain de son travail. Et on s'aperçoit que c'est trois heures différentes le soir. À la fin de la journée de travail, celui qui rentre le vendredi soir chez lui, dit la Gemara, pour manger le pain du Shabbat. Ou bien le soir quand le porc mange pour entrer manger le pain de la charité. Finalement, entre toutes ces opinions, il y a une nuance de ces trois grandes catégories. La Gemara choisit, le modèle, c'est le Kohen. C'est-à-dire, à l'échelle individuelle, on pourrait concevoir un judaïsme de la pauvreté, vœu de pauvreté, je vais vous dire, vous comprenez un peu d'Assèche, Ken, on pourrait considérer un judaïsme qui existe, le modèle, c'est le judaïsme consistorial, ça veut dire pendant toute la semaine, on vit comme les autres, et puis le Shabbat, c'est le Shabbat, et tout ça s'est indiqué dans la Gemara. Et puis, entre ces trois éventualités, la Mishnah nous dit, halakha pour tout Israël, le modèle c'est le Kohen. Donc c'est un thème extrêmement, extrêmement important. Et alors voilà, finalement, ce que la Gemara va nous dévoiler. Si la Mishnah a répondu que c'est à l'heure où le Kohen, qui s'était rendu intime, rentre de nouveau dans le camp de la pureté pour manger sa Terouma, c'est pour nous indiquer un principe très important, que le sacrifice d'expiation du fait qu'il a été impur n'empêche pas qu'il est de nouveau tout de suite disponible pour le service dès que le temps est arrivé. Et son sacrifice d'expiation ne peut pas l'offrir la nuit, donc il doit l'attendre le lendemain matin. Alors il est tout de suite disponible le soir et le sacrifice d'expiation après. Vous avez compris le problème? Ce principe s'appelle le kapara la me'akeva. C'est-à-dire que la kapara, que l'expiation de ce qui s'est passé comme cause de l'impureté, n'est pas un obstacle au fait d'être redevenu pur. Parce qu'il y a deux processus, trois processus. Il y a le processus de passer de la pureté à l'impureté. Il y a le processus de l'expiation de l'impureté antérieure et il y a le processus de passer au moment du temps où on a changé de temps. Donc, il est impur jusqu'au soir. Toute la journée, à la fin de la journée, il prend le bain de pureté. Mais il faut attendre la fin du soir, le début du soir, c'est-à-dire la sortie des étoiles dans notre cas, pour pouvoir être disponible de nouveau pour le service. Il y a une troisième clause, il faut qu'il expie son impureté. Parce que nous sommes dans le cas d'Israël. Et donc, ce n'est pas une faute de s'être rendu impur. Mais il y a obligation de se purifier. Tandis que pour le Kohen, il n'y a pas seulement obligation de purifier, c'est une faute pour lui de se rendre impur. Il y a donc expiation de l'impureté. Vous comprenez ? Par conséquent, il y avait ce principe-là. Peut-être qu'il a fait tout ce qu'il faut faire. Il s'est purifié, le temps est arrivé, mais il faut quand même qu'il attende le lendemain matin pour pouvoir commencer à être bon pour le service après son sacrifice d'expiation de l'impureté. Et la Gemara nous répond non, si la Mishnah s'est exprimée ainsi, c'est pour nous faire comprendre que pour le Kriyat Shema aussi, l'expiation n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, elle peut être retardée jusqu'au lendemain matin. Ça veut dire qu'on a fonctionné toute la journée. On a fonctionné toute la journée, il est impossible de fonctionner sans qu'il n'y ait pas d'impureté. Prenez ça à tous les niveaux des valeurs. Et alors, qu'est-ce que c'est cette route-là de se dire, bon, eh bien, la journée est terminée, et avec mon stock d'impureté, je me mets devant le Créateur et je dis de nouveau, Shema Israël, je vais reprendre service avec mes impuretés. Alors la Gemara dit, si le temps est arrivé, qu'il y a de nouveau bon pour service, qu'il y a des impuretés arrangées, eh bien, demain, il sera jour. J'ai compris le problème. Et c'est une perspective extrêmement importante. Et je vois qu'il nous reste 5 minutes, je vais vous compléter cela. C'est-à-dire, sur ceci, il y a une discussion quelques pages plus loin. Je l'ai cité, je crois, déjà cette année à Mariano, je vais la reprendre rapidement. Il y a une discussion quelque part plus loin, de savoir comment est l'ordre entre le Kriyat Shema et la Tfila, le soir et le matin. Alors tout le monde est d'accord, c'est page 4, dans le Tibet, je crois. Tout le monde est d'accord que le matin, l'ordre, c'est on dit d'abord le Kriyat Shema et ensuite on fait la Tfila. Alors que le soir, il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yochanan dit le soir c'est le même ordre que le matin, on dit d'abord le Kriyat Shema et ensuite on fait la Tfila. Rabbi Yoshua ben Levi dit non, le soir on dit d'abord la Tfila et après le Kriyat Shema. Alors voilà comment cette discussion est introduite dans la Gemara. On a cité une braïta précédente, un enseignement précédent qui dit voilà l'ordre du comportement de l'homme à la fin de la journée. Adam l'homme revient du champ, revient du travail le soir, alors qu'il ne dit pas je vais manger un peu, je vais boire un peu, je vais dormir un peu, et après j'irai traitement. Parce que de crainte que le sommeil le prenne, c'est un vrai travailleur, alors il risque de s'endormir, et il va passer toute la nuit sans dire le traitement. Alors, voilà quel doit être l'homme. L'homme vient du travail le soir, vient du champ le soir, et si le temps du traitement n'est pas encore là, parce qu'il a fini de travailler quand le crépuscule commence. Mais ce n'est que quand le crépuscule a fini qu'il va dire Kriyat Shema. Alors la Braïta dit, Umragi Mikrot Koré, s'il a l'habitude d'étudier le Mikra, il étudie le Mikra, Umragi Mishnot Shoné, s'il a l'habitude d'étudier la Torah Sadalpe, la Mishnah, il étudie la Mishnah, quand le temps arrive, Koré Kriyat Shema au Mikpale. Il dit le Kriyat Shema et il prie. Alors la Gemara va dire, nous avons donc là une source qui est l'opinion de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan avait dit, de la manière suivante, qui mérite le monde à venir? Celui qui relie le Kriyat Shema du soir à la Tfila du soir. Parce que la dernière proposition du Kriyat Shema du soir, c'est le rappel de la sortie de vie. Et on prie devant celui qui nous a sauvés des vies. Or, le matin, il n'y a aucun problème. Vous allez comprendre pourquoi. Au matin, la sortie de vie est achevée. On est sorti de la nuit. Le soir, on va rentrer dans l'événement et peut-être qu'on ne le méritera pas. Alors, on n'est pas assuré. Est-ce que le soir, on peut assurer la prière à la référence de la Géoula? La Géoula est évidente au matin. Elle est aléatoire le soir. cette discussion est très importante parce qu'elle a des implications historiques et politiques même que je vais vous montrer très rapidement. Et alors, finalement, la Gemara va dire, mais qu'est-ce qu'il ne sait pas? L'opinion, je vous rappelle, de Rabbi Yochanan, c'est l'ordre des rites comme ça. Le matin, Kratchemar, Sula, Sula de Mincha, Kratchemar, Sula de Arbi, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Ben Levi, c'est Kratchemar, Sula de Shachrit, Sula de Mincha, Sula de Arbi, et Kratchemar. Et ça n'a rien à voir avec le Kratchemar qu'on vient en se coucher. Encore un autre, celui-là. Ça vient du Kratchemar de Arbi. Bon, la Gemara dit, on peut expliquer ça soit par le raisonnement, soit par le recours au verset. Le recours au verset, il y avait recours au même verset. Il y a écrit Beshur Bechor Kumecha. Et Rabbi Yochanan dit ceci. Puisque le texte dit, et tu parleras de ces paroles en te couchant et en te levant, la manière dont on le fait en se levant, on le fait aussi en se couchant. Il y a une analogie. De la même manière que le matin, c'est d'abord le chrétien du matin, ensuite à celui-là du matin, de la même manière le soir, c'est d'abord le chrétien du soir et après la fila du soir. Voilà l'argument qu'on appelle en français et théologique scripturaire, en se basant sur le texte. Okay. D'autre part, dit, on peut expliquer ça, leur différence d'options, par le raisonnement. Et c'est quoi? Voilà comment a raisonné Rabbi Yochanan ben Levi. Rabbi Yochanan ben Levi dit ceci. Puisque la Géoula vraiment n'a eu lieu qu'au matin, la Géoula du soir n'est pas Géoula vraiment, et par conséquent, on ne peut pas se baser sur elle. Alors que Rabbi Yochanan pense, puisque la Géoula du soir est déjà Géoula, bien que la Géoula vraiment ne soit que le lendemain matin, elle est déjà Géoula. Et on peut se baser sur ça. Alors, et la discussion s'arrête là. Ça veut dire qu'on ne peut pas trancher. Alors, ce que je voulais ajouter très précisément, dans ce problème, et ensuite j'essaierai de le traiter, dans ce problème, ni le recours au texte, ni le recours à l'idéologie ne peut trancher. Il faut un engagement. C'est pourquoi Rabbi Yochanan dit « Qui mérite le monde à venir ?» Et je vous donne à Rolamaba, celui qui dit d'abord Kratchemar et ensuite la Tfila, de telle sorte de sortir de la Géoula pour entrer dans la Tfila, le soir déjà. Est-ce que tous les éléments vous sont clairs? Okay. Alors, la halakha est comme Rabbi Yochanan. Ça veut dire que c'est comme ça que la tradition a choisi. Alors, vous voyez qu'est-ce que c'est au moment de la sortie d'Égypte? Moïse annonce on va être délivré à minuit. Le soir, préparez le sacrifice de Pessah. Celui qui fera pas le sacrifice de Pessah sortira pas avec lui. Vous rappelez tous les éléments de la sortie d'Égypte. Une partie du peuple a dit oui. Bon, il y a des signes que peut-être, oui, mais est-ce que on verra demain matin si tu as raison, on te rejoint. J'ai compris le fait. Et alors, c'est clair, mais ceux qui ont dit, bon, ça commence, on y va, ceux-là sont sortis. Ça va jusque-là? Bon, ça c'est que la situation de la sociologie, vous avez deviné par vous-même que cette marloquette, nous l'avons aujourd'hui dans notre temps. C'est la marloquette idéologique entre le Mizrahi et la Gouda d'Israël. Je décris très rapidement. La position de la Gouda d'Israël, c'est celle de Rabbi Yochanan ben Levi, qui dit Géoula, oui, mais quand elle sera là, Géoula. Ça veut dire, on va voir demain matin s'il sera jour, vraiment. Pour le moment, nous sommes encore à la veille de la veille de la veille. Comment on n'est pas sûr. Hein? Par conséquent, on ne dira pas la bracha sur la lève et au matin. Vous la position du Mizrahi, c'est de dire, ça a commencé, c'est déjà le cas. On dit la bracha sur la lettre du Yom HaKippour. C'est la différence. Hein? Or, pour qui est la halakha? La halakha est pour ce qu'ils disent. Dès que ça commence, ça commence. C'est clair. Alors, la question qu'on peut poser, c'est que, est-ce que les rabbins de la Bouddha n'ont pas lu cette halakha? Ça, vous allez le demander aux rabbins de la Bouddha. Bien. Alors, je vous rappelle que à 8h30, nous avons la conférence. Et s'il y a Mia, nous ferons arbitre. Sinon, après la conférence. Bien, peut-être on va faire après la conférence pour vous essayer de changer.